Eh bien, on va commencer. Et le premier rôle du modérateur, c'est de présenter les personnes qui sont autour de lui. Alors, il y a Jeanne de Batz qui n'est pas là, mais nous espérons sa venue. Jean-Philippe de Batz, qui vient de publier un livre, on va les montrer. Voilà. Les démons de Paris. Pierre Pével, qui publie depuis très longtemps, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour une fantaisie noire germanique, et puis qui est en train de publier chez Brajeun une trilogie, une quadrilogie, une trilogie qui se passe à un moment clé de notre histoire, puisque c'est une époque où le chef du gouvernement est Richelieu, et c'est une France un petit peu particulière, puisque il y a aussi des dragons, je ne vous en dis pas plus, c'est un très beau cycle de fantasy. Et peut-être on peut dire que si Pierre est avec nous, c'est pas franchement pour Wildstadt, peut-être un peu plus pour ton nouveau cycle, mais tu as écrit aussi un cycle qui s'appelle Andromède, qui se situe à Paris, et là on pourra peut-être nous en parler. Eric Holstein, c'est, je crois, son deuxième roman, premier. Depuis, il a publié autre chose. Et voilà Jeanne, notre vedette féminine. Petit arrangement avec l'éternité, et comme vous le constatez sur la couverture, il y a une tour Eiffel. Donc on peut supposer que ça se déroule dans la capitale. On va présenter maintenant, quel est là, le livre de Jeanne, Stratégie du réenchantement. Voilà. Ça se déroule à Paris, Jeanne ?
La balade de Trash donc, se déroule entièrement dans le 13e arrondissement, juste en dessous. En
fait. Voilà, on va. La première question, une question très simple. Vous savez que Paris est la capitale de la France, que dans une chanson, on dit que c'est une ville infâme et merveilleuse. Et puis, on va s'en tenir là pour les généralités et on va demander à chaque auteur quelle est sa relation avec Paris, s'il est parisien. Je sais que Pierre Pével n'est pas du tout parisien puisqu'il habite Nancy. Je sais que Jean-Philippe de Potte a écrit ce livre alors qu'il était à Tokyo, donc je me suis renseigné. On va leur demander quel est leur rapport à Paris et pourquoi ils ont eu envie de parler, de mettre en scène cette ville qui a été mise en scène par plein d'autres auteurs avant eux et qui reste une ville qui fascine les écrivains, comme d'ailleurs souvent les capitales. Jeanne ?
Moi, en tout cas, j'y ai grandi, même si je n'y suis pas née. Et j'ai notamment grandi dans le 13e arrondissement, que je connais extrêmement bien et que j'ai très souvent mis en scène dans mes nouvelles. Et cette fois-là, directement dans un de mes romans qui est La Balade. C'est une ville que j'aime, dans laquelle je ne me vois plus. Je me vois toujours. J'ai déménagé vers 35 ans pour élever des enfants à la campagne, mais là j'y reviens, puisque maintenant ils sont grands et ils n'ont plus tellement besoin de verre, et moi j'ai terriblement besoin de Paris. Donc je me suis installée en plein cœur, et j'en suis ravie, voilà. Et j'ai continué à écrire dessus. Peut-être par nostalgie, moi.
Et le 13e, pourquoi ? Parce que un des romans les plus célèbres sur le 13e, pour les gens de notre génération, c'est Brouillard au pont de Tolbiac de Léo Mallet, dans lequel Nestor Burma raconte sa jeunesse, qui est en même temps d'ailleurs la jeunesse de Léo Mallet, son séjour au foyer végétalien, et il a sur le 13e des mots qui ne sont pas d'une tendresse extraordinaire.
Mais mon 13e à moi n'est pas tendre non plus, non. Simplement c'est là que j'ai grandi, et puis les rats de Montsouris non plus, c'est pas terrible de Léo Mallet.
Non.
Qu'est-ce qu'ils prennent dans la tête les rats de Montsouris? Ben les miens aussi, c'est un endroit. Voilà.
saurait puis pénètre dans les... Le 13e, c'est un quartier qui a beaucoup changé d'aspect. Pour ceux qui le connaissent, il y a tout un quartier chinois qu'on a le sentiment d'être tout à fait à l'étranger dans ce quartier. Quartier chinois, vietnamien, thaï. C'est une des choses qui vous intéressait dans le caractère de quartier un peu de ghetto quand même, parce que c'est assez...
De communauté
aussi.
On ne va pas dire ghetto, là, ghetto. Parce que moi c'est comme ça que je l'ai vécu, de communauté.
De communauté.
Voilà. Cela dit, dans les prévisions optimistes, façon SFiste que j'ai, le quartier chinois a totalement disparu parce qu'on a renvoyé tout le monde. Voilà. Il n'y en a plus. C'est white only, et super white only. Et c'est triste. Mais quand j'étais jeune, j'adorais cet endroit-là, à cause de ça, à cause des ors, des rouges, des lumières, des serpents qu'on croisait. On le voit beaucoup moins maintenant. On voit le nouvel an chinois qui est très mis en scène à la télé, etc. Mais quand j'avais 15 ans, c'était les pétards et les dragons, on les avait. Et c'était merveilleux, c'était quelque chose qui, pour une gersoise née au fin fond du Gers, c'était magique. C'est mes premiers dragons. Hein, Pierre?
Carpompot.
Oui, mais ils étaient beaux et ils avaient 5 griffes. Ils étaient impériaux, mes dragons.
Pourquoi? Tes dragons sont pas en carton pâte?
Bah non, je les aimerais.
Bien, Jean-Philippe Depote, votre roman se déroule à Paris. Pourquoi avoir choisi cette ville? Parce que c'est la fiction que vous aviez envie d'écrire, qu'il écrivait, ou parce que vous avez un rapport particulier à Paris?
Donc en fait, moi j'étais parisien de 17 à 37 ans, donc en gros 20 ans. Et à ce moment-là, donc j'ai eu l'occasion, parce que ma femme a été mutée à Tokyo. J'ai eu l'occasion de partir pour Tokyo, et donc j'ai habité au Japon pendant 4 ans. Et ce qui m'a permis, ce qui m'a offert 4 merveilleuses années sabbatiques, hein, et qui m'a permis d'écrire ce livre. Et donc, avant tout, j'ai pensé à une intrigue, à l'intrigue du roman, et je me suis posé la question de l'endroit où j'allais placer cette histoire. Et en fait, l'idée de Paris m'est venue plutôt dans le Paris de la Belle Époque, par les images que j'en avais, donc les images de Tardy principalement, de Adèle Blanc-Sec et des dessins de Tardy du Paris de cette époque-là, en fait chercher un décor qui faisait travailler mon imagination. Et aussi, une deuxième grosse influence qui m'inspirait, c'est le Paris de Baz Luhrmann dans Moulin Rouge, donc vraiment un Paris fantasmé, un Paris de décor de théâtre, et qui est en fait... En plus, je ne sais pas si c'est un hasard, mais étonnamment proche du Paris qu'imaginent les Japonais, et les Paris qui plaît aux Japonais, le Paris romantique, un Paris fantasmé qui est assez loin et assez proche à la fois du Paris réel. Et en fait, en faisant les recherches historiques autour du Paris de la Belle Époque, donc coincé entre l'exposition universelle et de 1900 et le début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un Paris très optimiste, hein, où les gens croyaient à l'avenir, très, très orienté vers le futur, enfin le futur comme on le voyait à l'époque, et à la fois bien enraciné dans les visions de spiritisme, d'occultisme, et tout se mélanger allègrement dans la tête des gens. Et donc c'est un terreau magnifique pour faire une histoire fantastique. Entre les vivants et les morts, entre le Paris réel, enfin réel, celui dont je viens de parler, et le Paris des morts, puisque l'histoire passe en permanence entre les enfers à Paris et le Paris réel.
On y reviendra, parce que vous mettez en scène des personnages intéressants à aller côtoyer d'un peu plus près. Pierre, dans Bromère, on est aussi à Paris, mais c'est un Paris un petit peu particulier.
Paris début de siècle, oui, qui serait très influencé, imprégné de culture féerique goût magique, parce que j'ai imaginé pour cette série d'Andromère que l'univers des fées, des contes et légendes, des licornes, etc., c'est, au lieu de s'éloigner d'une autre, comme ça s'est passé véritablement, c'est rapproché d'une autre, un peu comme deux continents finissent par se frotter, et là où ils se rejoignent, c'est à Paris, et donc on a un Paris qui est à la fois historique, début de siècle, celui de la Belle Époque, et un Paris merveilleux, fantastique. Et quand j'ai eu cette idée, ce qui m'a surpris et m'a convaincu de poursuivre dans cette voie, c'est le nombre de rapprochements pertinents qu'il y avait. Quoi. Si on regarde au niveau stylistique, de l'école de Nancy à Art Nouveau, c'est très floral, c'est très elfique. Et d'ailleurs, les décorateurs du Seigneur des Anneaux, s'ils ne sont pas trompés, hein, quand on regarde bien, c'est l'époque où, alors ça devient anecdotique, mais ça peut conforter un auteur dans sa voix. Si on parle de la fée électricité, pour l'électricité, l'absinthe, c'est la fée verte. Enfin, il y avait plein. Et puis, il n'y a pas, moi je trouvais que des fées dans le Paris haussmannien, ça marchait, ça fonctionnait. Et avec des voitures, genre les brigades multiples, tout ça, tout cet univers trouvait une cohérence naturelle qui me semblait assez évidente finalement. Très attaché à ces bouquins, j'ai lâché depuis un peu de temps maintenant. Mais vraiment, l'univers me semblait très, très évocateur immédiatement en plus. C'est peut-être un des avantages de se colter avec une ville comme Paris, c'est voilà, pour la plupart des capitales ou des villes mondialement connues, c'est que si je mets la tour Eiffel en bois blanc, j'ai pas besoin d'expliquer en quoi c'est extraordinaire qu'elle soit en bois blanc, que tout le monde sait qu'elle n'est pas en bois blanc, et tout le monde la visualise en même temps immédiatement en bois blanc. Donc c'est vraiment un des raccourcis très très efficaces et Paris permet ça. C'est une ville, elle est mondialement connue, c'est quand même très très commode. Hein. Qui permet des raccourcis assez efficaces.
Eric, alors Paris, la Tour Eiffel, pour quel type d'intrigue et pourquoi?
Alors moi, j'ai l'impression que je suis le seul parico pur jus.
Ça s'entend, Robert.
Ça s'entend. La Tour Eiffel, bah oui, parce que la Tour Eiffel, ouais, c'est si Paris peut être réduit à une seule chose, c'est la Tour Eiffel. Enfin, c'est évident, et d'ailleurs, enfin voilà, l'illustrateur Thibaut, s'il n'a pas trompé, la première proposition qu'il a faite était autour de la Tour Eiffel. Hein.
C'est un film qui va faire comprendre que ça se passe à Paris, on fait un plan sur la Tour Eiffel, c'est
situé. Ouais, normalement, c'est la première chose qui est détruite dans les films catastrophes. Et pour une intrigue de vampire qui est un peu atypique, et dont le narrateur est un vampire qui est un ancien voyou des fortifs qui parle argot et donc bah, l'argot cadence tout le roman. Donc ça détermine la psychologie du personnage, ça détermine forcément le lieu puisque bah, voilà, c'est l'argot de Paris et c'est une langue que je trouve très poétique parce que c'est une langue d'image, c'est une langue d'analogie. Et pour moi, c'est un peu le patois parisien et c'est quelque chose qui se perd. Et c'est une langue auquel je suis très attaché, je voulais travailler ce matériau-là. Et de la langue est venu nécessairement le lieu.
Et fortif, ça veut dire que ça se situe à une époque qui n'est pas de Paris contemporain.
Alors lui est né dans le Paris des fortifs, à l'époque où Paris était encore entouré par endroits de son troisième rempart. Et les fortifs sont devenus périphes, hein, peu de choses près. Et lui, bah voilà, il est né à la toute fin du 19e siècle. Hein, et il était apprenti chaudronnier. Il y a des souvenirs où il se balade dans le 17e, où c'était encore la campagne, où c'était encore des guinguettes, où c'était encore l'endroit où les banquiers installaient leurs cocottes. C'est ce Paris-là. Et en fait, en se baladant dans Paris, c'est un Paris contemporain, mais avec plein de petites bulles atemporelles. Par exemple, voilà, à un moment donné, il se retrouve dans les rues du côté de Château d'Eau, près de la gare de l'Est, où sont des anciens entrepôts de textiles qui, puis, alors voilà, c'est devenu un cours de yoga, mais il y a cette espèce de, d'architecture un peu Crystal Palace qui, voilà, qui plante un Paris du début de l'ère industrielle, qui est un Paris des possibles. Je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve aussi bien chez Pierre que chez Jean-Philippe. C'est le Paris des possibles, et c'est un Paris, en fait, qui est accessible. En fait, je pense que c'est le Paris du passé qui est le plus immédiatement accessible aux gens. Donc c'est facile, enfin, c'est un matériau facile à travailler parce qu'immédiatement évident.
Et l'argot parisien, vous pouvez nous en donner quelques exemples? Ouais.
On peut toujours débiter le char comme ça, mais à froid, c'est toujours un peu... Ben, ça va venir dans le...
Ça va venir, oui, parce que...
Si je sais que j'ai le droit de dire des gros mots, ça va...
Oui, 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 oui. On autorise tous les débordements, parce que c'est pour la science, n'est-ce pas? Alors, on va revenir à Jeanne, qui, elle, a inscrit son pari dans le futur. Il n'y a pas tellement d'ouvrages où on en montre pari dans le futur.
Mais la plupart des ouvrages de SF ont tendance à s'intéresser à New York. Chaque fois qu'il y a un extraterrestre qui débarque, je ne sais pas pourquoi ils sont trop en plein dans la 5e avenue, alors que quand même les Champs-Élysées pour atterrir, c'est bien. Je suis désolée, hein. On a pile l'axe de l'Arc de Triomphe, il n'y a qu'à aligner, on se pose. Bon, j'ai pas beaucoup d'extraterrestres dans mes histoires, mais en fait, comme j'ai une vision d'écrivain qui est portée sur la société, ben celle qui m'intéresse, c'est la mienne. Et j'ai envie de voir comment, éventuellement, je peux envisager qu'elle évolue. Donc, c'est dans Paris. Et puis, il y a quelque chose... Mais c'est pas seulement en SF que je mets Paris. J'ai fait des nouvelles fantastiques à partir de l'œuvre de Simon qui était sortie chez ActuSF, qui tourne autour de Paris, dans lui, qui est partout dans Paris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre cet endroit tellement familier, un peu étrange, un peu magique, un peu futuriste, voilà. Mes collègues vont dans le 19e, ou etc., ou près d'Adèle Plansec, et c'est des moments steampunk passionnants. Et moi, ce qui me plaît, c'est de faire ce que j'ai là, sous le nez, quelque chose d'extraordinaire. Et parce que la poésie de la ville actuelle, de Paris actuelle, elle vous saute en pleine figure. Il faut traverser le pont de Tolbiac, et regardez les rails, justement, qui vont jusqu'à Montparnasse, bon, ça doit être vers Montparnasse qui vont, et voir le soleil se coucher dessus, c'est inhumain, c'est atroce, c'est laid, mais c'est d'une beauté renversante. Alors pourquoi ne pas en parler? Voilà.
Paris, c'est une ville qui a provoqué la création chez beaucoup d'écrivains, on va pas remonter... 19e ou avant, mais c'est une ville qui a été magnifiée par les surréalistes, notamment, hein, par Breton en Aja, par Aragon dans Le Paysan de Paris. C'est une ville où ces auteurs se sont livrés à des pérégrinations en cherchant quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'est finalement une démarche pas très éloignée de la vôtre.
Pas dire ça.
Mais,
non. Bon, alors je le dis. Tant pis, mais une fois que c'est fait, j'ai quand même raconté des histoires, c'est tout. Des histoires qui se passaient dans un endroit que j'aimais et que j'aime toujours. Et voilà. Et c'est vrai que le futur, je l'envisage dans Paris. Voilà.
Jean-Philippe Depote, vous avez mis en scène un personnage extrêmement curieux dans votre roman, dont il faut peut-être parler, parce que je ne pense pas qu'il soit familier à tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à l'ésotérisme. C'est ce personnage de Papus. Et ça, en travaillant sur ce personnage, vous avez eu une collision que vous me racontiez tout à l'heure, qui est quand même des espèces de miracles que rencontrent les romanciers.
Oui, bon, déjà, c'est ça, tout le roman est imprégné d'histoire. Je cherche beaucoup l'inspiration dans les livres d'histoire, parce que très souvent, effectivement, entre deux lignes, on trouve soit par une anecdote qui tout de suite fait travailler l'imagination, ou à l'inverse, par un trou. dans l'histoire réelle qui donne tout de suite envie de compléter le pointillé.
Le mec, c'est mon chien.
Et j'y vais pas jusque-là. Et là, en fait, l'histoire, c'est que donc, je m'étais beaucoup intéressé à Papus, parce que qui était donc le grand occultiste du roman, qui est d'ailleurs un peu pris à contre-pied dans l'histoire et pas forcément vu sous son meilleur jour. Et par ailleurs, l'histoire aussi traite d'un complot. Lénine était en exil à Paris en 1910. Et en fait, je situe l'histoire au moment d'une visite officielle du tsar Nicolas II à Paris, donc alors que Lénine est là et Paris est infesté des agents de Okhrana, qui étaient la police secrète russe et qui posaient d'ailleurs beaucoup de problèmes à la police française et donc au préfet Lépine, qui est aussi dans le roman. Et ce qui est amusant, c'est qu'alors que j'avais ces deux idées en tête, hein, ce cadre-là, je me suis donc bien plongé dans la biographie de Papus. Et j'ai découvert que Papus avait été convoqué par le tsar Nicolas II à Tsarskoye Selo, dans son château de Russie, pour invoquer l'esprit d'Alexandre III, son père, qui était beaucoup plus autoritaire que lui. Et en fait, parce qu'il se retrouvait confronté aux problèmes liés aux événements de 1905, qui est donc au début de la révolution russe, et donc ce qui avait d'ailleurs causé l'exil de Lénine. Et il voulait donc que Papus l'aide, hein, en invoquant et en pouvant dialoguer avec l'esprit de son père Alexandre III, lui demander des conseils pour comment gérer ces problèmes révolutionnaires. Et donc Papus est allé en Russie et donc a un peu pataugé pendant quelques semaines à essayer de faire tourner les tables. Et sur ce est arrivé Rasputin, hein, qui n'aime pas qu'on lui marche avec les bandes et qui a fait éjecter Manu Militari Papus de Russie. Et donc voilà, et donc ça c'est l'histoire, la vraie, avec un grand H. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il y a un ange qui veut que j'écrive ce roman, c'est incroyable que donc ces deux personnages principaux de mon livre vraiment se soient vraiment connus et aient vécu cette histoire. Et donc voilà, il y a des petits miracles comme ça de l'histoire qui se produisent.
Oui, ben, un autre petit miracle, c'est que Lénine, quand il habitait à Paris, j'ai su ça dans un livre de Léo Mallet, hein, dans un nouveau Mystère de Paris, il habitait dans le même immeuble que Charles Goffic, de l'Académie française, qui a écrit un livre sur Brocéliande, et on revient donc en territoire de fantaisie, ce qui va me permettre de faire une transition et de passer la main à Pierre, parce que l'inspiration n'est pas seulement féerique, aussi l'inspiration des deux romans d'Ambremer, c'est aussi une inspiration littéraire du côté des grands auteurs populaires de ce début de siècle.
Pour Ambremer, oui, la référence, enfin celui auquel je pensais le plus souvent, c'est Leblanc, et aux aventures d'un seul. Le Roux, il avait droit de citer, avec Rouletabille. Je pensais beaucoup, oui, à ces feuilletonistes, mais je pensais tout autant à eux que au feuilleton Les Brigades du Tigre. Et pour moi, je vais traiter ça sur un pied d'égalité pour ce qui est de la, comment dire, de la manière dont ça pouvait m'influencer. D'ailleurs, pour ce qui est d'Ambremer, je voulais avoir un pari qui tende vers la carte postale, qui tende vers le folklore. Et du coup, je me suis documenté, j'avais presque dit, jusqu'à dire, le moins possible. Un petit peu, j'avais un plan de Paris, j'avais des cartes postales, choses comme ça. Mais j'ai évité de creuser trop les choses parce que je ne voulais pas me laisser impressionner moi par ça. J'avais pas tellement envie de découvrir ce qu'il y avait au-delà du décor, je voulais me contenter du décor. Et d'ailleurs, les façades haussmanniennes ne sont guère que ça, si on pense bien. C'est des grands décors, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. La belle unicité que peut avoir une rue ou certaines rues très haussmanniennes, ça ne correspond absolument pas à la réalité qu'il y a au-delà. C'est vraiment beaucoup de décors. Là, on s'échappe de loin du Paris haussmannien, mais la place des Vosges, si elle est aussi belle qu'elle l'est, c'est parce qu'on a commencé par faire les façades, par décret royal. On a dit voilà, ça va être comme ça. Et ensuite, on vendait des lotissements aux gens qui construisaient derrière, ce qu'ils voulaient, on s'en foutait. Pourtant, c'est d'avoir ça. Et du coup, on a une place qui est parfaitement agencée. Donc ce côté décor, j'y tenais pour Ambremer, j'y tenais beaucoup, je voulais rester dans cette idée de carte postale. Et d'ailleurs, à peu de choses près, mes seuls documents, à part un atlas du Paris du début du 20e, mes seuls autres documents, c'était des plans, des cartes postales et un catalogue associé à l'exposition universelle qui nous présentait donc un peu Paris aux touristes. Et donc c'est uniquement de cela dont je me suis servi pour rester sur quelque chose d'un peu sur l'écume. Et j'étais sûr que si moi je savais, trop, je les mettrais dans le livre. Et je couperais ce côté féerique. Un truc qui fait que c'est la féerie plutôt que de la fantaisie ou du fantastique. La féerie, on n'explique jamais qu'il n'y a pas de système magique dans la féerie. On n'explique pas qu'il y a des écoles de magiciens qui font ceci, qui font cela, et que la magie fonctionne parce qu'on utilise l'énergie de telle chose pour faire. Non, la magie féerique, celle des contes de fées, il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui font ça, qui le font. Et donc, c'était pour garder tout ça, cette chose injustifiée. Je voulais que moi ne batte autant que je ne sache pas. Puis ça faisait gagner du temps.
Alors, est-ce qu'il s'est produit pour toi des miracles, des petits miracles, comme il s'est produit pour Jean-Philippe de Pote?
Pas pour Ambremer, mais pour les suivants. Pour les Indes du Cardinal, qui se passent au début du XVIIe siècle à Paris. Là, oui, l'histoire a eu du talent, souvent. D'ailleurs, la genèse du livre, même l'idée de faire une bande d'espions travaillant sous les ordres du cardinal de Richelieu, m'a été inspirée par deux anecdotes historiques que j'ai déjà racontées. Diverses occasions, mais un, l'enlèvement d'un espion à l'étranger qu'on a rapatrié de notre côté de la frontière, on l'a dit, maintenant vous êtes en état d'arrestation, c'était pas plus légal à l'époque que maintenant, donc je me suis dit, qui a fait ça? Et une autre fois, un courrier, c'est la valise diplomatique qui a été, le gars qui l'a transporté a été malencontreusement attaqué dans une forêt noire de nuit, et les documents sont arrivés par des brigands, et les documents sont arrivés sur les bureaux du cardinal de Richelieu peu après. Là, pareil, je me suis dit, qui a fait ça? Il faut bien qu'il y ait des mecs qui l'aient fait. Donc moi, j'ai imaginé mes lames du cardinal étant ce groupe donc, qui travaille, qui fait ce genre de mission. Alors, l'histoire a souvent, oui, du talent, quoi. Elle trouve des raccourcis très très efficaces et des rencontres. Alors oui, ça c'est parfois on est vraiment surpris de découvrir. Ou alors parfois c'est des rencontres, si on peut dire, elles sont géographiques. C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a deux types qui ont habité parfois dans le même immeuble ou au moins dans la même rue à quelques années d'intervalle. Et là on se prend à rêver quoi. On se dit et si il y en avait un qui avait déménagé un peu plus tard. Ou alors même on se dit on n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés mais physiquement c'est possible. Et là, c'est la ville qui vient au secours du romancier en disant bah oui, c'est possible. Ils ont peut-être pris le métro en même temps, à savoir, il aurait pu se passer ça.
Éric, alors, une histoire de vampire à Paris, une inspiration fantastique vient d'où à ce moment-là?
Alors, l'inspiration fantastique.
Il y a des décors qui.
Alors, l'inspiration fantastique, c'est. C'était une vieille envie de m'attaquer au genre vampirique, mais. Pas sous l'angle habituel parce que j'en avais ras-le-bol, j'avais l'impression d'avoir lu tout le temps la même histoire. Donc je voulais des vampires crédibles qui pouvaient tenir 400 ans dans une ville sans que les gens aient envie de les exterminer. Donc à l'évidence, ils ne pouvaient pas boire de sang. À l'évidence, ils devaient se faire discret et vivre dans les interstices de la société. Après, Paris, Paris avait cette histoire de langage. Qui appelait cette ville. Déjà, c'est ma ville, je la connais bien, c'était un premier roman, donc j'avais besoin de me rassurer avec des fondamentaux que je connaissais bien. Et ça me permettait de. Même si je ne les ai pas relus à ce moment-là, surtout pas d'ailleurs à ce moment-là, de me replonger dans des univers d'auteurs que j'aime bien. Alors il y a. Il y a du Boudard, il y a du Simonin. Et je pense que, c'est marrant, on en parle là, mais c'est l'influence la plus peut-être la plus marquante pour moi, ça reste Malais, justement. C'est le Paris de Léo Malais avec. Qui lui aussi en fait est entre deux époques, puisque toutes ces histoires se passent juste après la libération. Mais avant les Trente Glorieuses, donc il est dans un Paris qui est.
52 à 59, le nouveau mystère de Paris.
52, 59, ouais, mais on reste dans un Paris qui est à la fois.
Mais qui est un Paris déjà ne cède en
voilà. Plus tôt que ça, sans la rue de la Gare, il est plus tôt.
Non, sans la rue de la Gare, c'est oui, la guerre. Mais, sans la rue de la Gare, ça se passe.
C'est la libération,
d'abord,
c'est
la libération. Et ensuite à Paris, en banlieue. Tandis que les nouveaux mystères de Paris, l'œuvre centrale, c'est 52 à 59.
Ouais, mais, enfin, voilà, mais il a une vision qui est. Entre deux zones. Ouais.
Oui, tout à fait.
Et c'est ça qui me plaît dans, cette, dans cet univers.
Ouais. Moi, j'ai fait un film sur Léo Manet et on a traversé Paris en voiture avec lui. Et à chaque moment de Paris, il racontait des anecdotes. C'était vraiment une fille qu'il connaissait par cœur et on retrouve ça évidemment dans, dans ses romans. Mais il n'est pas parisien, il est né à Montpellier.
Mais Paris a, alors je sais pas si c'est unique, mais c'est en tout cas très particulier. Et en Europe, ça l'est probablement. Paris, c'est une ville qui n'a jamais été détruite, ni par les guerres, ni par des catastrophes. Londres, c'est pris des incendies, Berlin, on ne parle pas. Lisbonne, tremblement de terre, etc., etc., etc. Paris, c'est une ville qui a été évidemment remaniée, qui a été reconstruite, qui a été rebâtie, qui s'est agrandie, qui a vécu, mais qui a jamais été détruite. Et donc elle est vraiment toujours riche de ce passé-là. Et c'est pour ça que, quand bien même, quelle que soit finalement l'époque à laquelle nous on pourrait situer nos bouquins, il y a des lieux qui vont toujours se croiser. On retrouvera tout le temps. Quoi. À peu de choses près, si un roman est situé au Moyen-Âge, il y a toutes les chances que les grands lieux qui vont être mis en scène se retrouveront automatiquement dans tous les romans qui pourraient suivre et qui traiteraient de Paris. Rien n'est jamais détruit finalement, et pour des choses vraiment de grande importance. Quoi. Le seul fait d'avoir Notre-Dame de Paris, nous on y est parfaitement habitués, mais c'est pas si grand que ça d'avoir une cathédrale médiévale.
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des surcouches historiques qui se superposent. Et en fait, on peut, voilà, on peut descendre ces strates. Dans une même histoire, on peut descendre ses strates et les remonter, c'est ça qui est...
Et parfois, c'est un coin de rue. C'est, on rentre dans une arrière-cour et on tombe sur un portique, sur une statue, sur une fresque. On peut... Donc, au moins, des trucs médiévaux, ça se trouve encore. Quoi.
Une balade dans le marais, c'est un voyage dans le temps. C'est dans le temps.
Moi, je connais pas, comme tu disais, je suis pas parisien. Pour moi, Paris, c'est une ville étrangère. Voire même une ville exotique, si je la projette encore plus dans le temps. Mais donc, ce qui fait qu'il m'arrive souvent, quand je dois me promener à Paris, quand j'y viens pour le boulot, de découvrir des rues qui existent encore, ce que j'ignorais absolument jusqu'à au moment où je les rencontre. Parce que pour moi, la nouveauté, c'est qu'elles soient encore là. Donc, je me souviens, la première fois que je suis passé par la rue de la Grande Truanderie, j'étais tout seul, ça m'a embêté. J'avais envie d'être avec quelqu'un. C'est la rue, c'est la mienne, elle était déjà là, quoi. C'est celle que je connais et j'en ai parlé avec mes mousquetaires il y a trois jours dans un bouquin. C'est cette émotion qu'on peut avoir avec Paris et ces rues qu'on retrouve. J'ai en tête, parce que je suis documenté le Paris du 17e, mais dans certains quartiers de Paris, enfin donc pour tout ce qui est du Marais, hein, ça c'est évident, un plan de Paris de cette époque, on s'en sort. Hein. Il suffit de savoir qu'il y a des gens qui ont foutu la Bastille par terre, par exemple, et maintenant, on s'en sortir à peu près bien. Quoi. C'est valable. Bizarre, enfin, c'est pas valable pour l'école de la cité, parce que là, pour vous, ça a été quand même très, 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 très peu remanié. Mais l'université, le quartier latin, la rue de la Harpe, la Sorbonne, ils n'ont pas bougé aux dernières nouvelles. Déjà là, hein.
Note que 80% de ce que je raconte sur Paris, en général, ça passe sous terre, niveau carolingien. Ouais. À part le passage au réservoir, le seul moment où ils sortent, ils voient le Lion de Belfort et le Stade Charletti. C'est le Paris du futur, c'est ça, et les Carolingiens. Le Lion de Belfort plus les Carolingiens, voilà. Et des égouts et la bière. Évidemment.
La bière.
Et forcément, ouais. La bière.
Mais aussi, à l'inverse, hein, ce qui est aussi très intéressant avec Paris, c'est justement les endroits qui ont disparu. Et on peut retourner sur les lieux, c'est dire, c'est dingue, à cet endroit-là, il y avait, et en particulier, moi, il y a mon fameux Luna Park que j'ai découvert en faisant mes recherches sur Paris. Donc il y avait un Luna Park à la Porte Maillot, un grand parc d'attractions à la Disney, enfin, donc, version début du XXe siècle. Et avec, voilà, et on a le clash des deux mondes avec la modernité des petits chariots dans les montagnes russes et les dames avec les grandes robes, les grands chapeaux et les hommes en canotier. Et de se balader aujourd'hui porte-maillot et de se dire qu'à cet endroit-là, il y avait un Luna Park et voir les photos d'époque avec la grande tête de lune. Et
un Luna Park, c'est Napoléon Ier. Plusieurs parcs d'attractions, avec des chariots et tout. On peut des marchés.
Moi, j'ai poussé le vice jusqu'à, comme j'habitais Tokyo et que j'étais dans le coin, j'ai poussé le vice jusqu'à aller me visiter le Luna Park de Sydney, hein, en Australie, qui est venu un peu plus tard, qui a été construit en 1930, mais qui est très proche du Luna Park, des photos du Luna Park de Paris, avec la grande face de lune et des attractions comme un trottoir. Des choses comme ça qui sont encore en bois et donc on peut aller payer et aller s'amuser dans les attractions du Luna Park de Sydney et ça a vraiment fait plaisir de me mettre physiquement dans les situations dans lesquelles je mettais mes personnages dans le Luna Park de Paris.
La face de lune de Méliès,
ça ressemble, c'est une espèce de grande face lunaire qui un peu ambiguë, quoi, qui se veut joyeuse parce que c'est un grand sourire mais qui a un petit côté inquiétant, on rentre en tutelle et elle se moque un peu, ou elle se moque du destin funeste.
Elle de Vienne, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors, il y a, dans Paris, quand on n'est pas parisien, il y a, on a fréquenté un peu la cathédrale, il y a des endroits un peu magiques qui nous attirent, il y a des décors particuliers. Quels sont les vôtres, Jeanne?
Des décors magiques, non? Le 13e, ouais, j'ai beaucoup aimé en fait l'hôpital Sainte-Anne, qui a un côté un peu pervers. Il y a un jardin complètement préservé à l'intérieur de l'hôpital. Et quand on passe à côté, on se dit qu'il y a quelque chose de l'autre côté, il y a des gens. Ça faisait partie de mes endroits magiques. Il y a les tout petits villages autour de Montsouris, des maisons minuscules qui ont été construites pour les officiers de Napoléon, je crois. Notamment la Villa des Fleurs, qui sont de toutes petites maisons ravissantes de poupées, 4 ou 5 rues, pas plus. Il ne faut pas rêver, elles ne sont jamais à vendre, on les hérite, et à mon avis, on les hérite d'un émir maintenant. Mais ce sont de purs villages du 19e siècle. Et là, j'ai passé des heures quand j'étais petite. J'avais l'impression d'être très, très, très loin dans le temps. Ça, c'est un de mes endroits magiques.
C'était des villages d'artistes à l'époque,
non? Ah non, c'était non. Les officiers de Napoléon.
Les officiers de Napoléon Rouge.
De Napoléon.
De Napoléon, pardon.
Je n'étais pas de l'armée rouge du tout, tu sais. Ah,
de Napoléon, excuse-moi, je n'ai pas entendu.
Lénine était très loin, là. Ouais. Tu as 4 ou 5 villages comme ça éparpillés dans Paris, ouais. qui recevaient les grands officiers. Et il y a ça comme endroit très, très magique. Des endroits de vie. Les grands monuments, en fait, me gonflent. Ouais. Notre-Dame de Paris, j'ai adoré le roman, j'ai adoré le lire, et la rue de la Grande Truanderie me parle, mais je me fiche complètement des gargouilles, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est plutôt la rue de la Grande Truanderie, l'endroit où on a assassiné. Ah, mon café préféré, c'était le Cœur Couronné. On a assassiné Henri IV devant. Voilà. J'adorais prendre mon café devant la tache de sang d'Henri IV. Bon, ça, c'était magique. Voilà.
Éric, tes décors.
En fait, j'ai pas vraiment d'endroit. C'est presque des moments dans des balades. J'ai un souvenir d'une balade un soir du côté de la rue de Seine, où il y avait le brouillard qui faisait ressortir un arbre dans l'éclairage d'un réverbère. Et voilà, c'est des petits moments qui sont des supports d'imaginaire. Je vois ça et d'un seul pof, il y a presque une histoire qui apparaît. Ça peut être certains hôtels particuliers qui se retrouvent un peu perdus dans des coins du 17e. J'ai un espèce de mini-hôtel particulier, ceux de 2-3 étages, qui se retrouvent entre deux immeubles contemporains dans un quartier comme le 17e qui n'a pas été spécialement dévasté par les commissions architecturales des années 70. Et ce truc a l'air d'un vaisseau perdu au milieu de, milieu de deux trucs en béton. Hein. Et voilà, tout de suite, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. J'ai envie de savoir qui vit là, qui, comment on vit là entre deux bâtisses moches des années 70 dans un petit truc néo-gothique du 19e. C'est. Voilà, c'est. Voilà, au détour d'une rue, il y a un bout de Paris qui d'un seul coup devient la pièce de 2 euros qu'on met dans la machine à images, quoi.
Jean-Philippe, moi je me suis beaucoup inspiré de photos d'époque et plus que les bâtiments. Ce qui m'a surtout marqué, inspiré, c'est les gens et les petits métiers, en fait, en particulier, qu'on croisait dans les rues de Paris. Donc le vendeur de lacets, le chasseur de rats, ou le gars, par exemple, puisqu'il y a le pont d'Arcole est assez important dans mon histoire. Et donc j'ai trouvé une photo d'un éleveur de chèvres hein, qui traversait le pont d'Arcole avec son troupeau de chèvres. Et ça, je me disais, il fallait un petit truc. Que mon héros croise le troupeau de chèvres au moment où il traversera le pont d'Arcole. Et puis, en guise de pied de nez, il y a aussi une scène où le héros Joseph s'arrête un moment pour acheter sa dernière patate à un vendeur de pommes de terre chaude et discute avec lui sur le bord de la carriole. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est une image qui vient de Tokyo. Parce que à Tokyo, encore aujourd'hui, il y a des vendeurs de patates douces hein, qui tirent leur charrette et qu'on croise donc, dans Tokyo 2010. Et donc, c'était le petit clin d'œil en le remettant à la sauce française.
C'est une scène qui est vachement convaincante de ton roman. Tu vois la vieille photo du. Des photos de Noctambule ça fait bien la blague.
Et toi, Pierre ?
Ce qui me renvoie moi beaucoup à Ambremer, c'est le parc Monceau. Je sais pas beaucoup. J'ai pas d'explication. Pour ce qui est des lames du cardinal, outrageusement dénommée place des Vosges, la place royale. Qui continue, moi, il est très très rare que j'aille à Paris sans passer par cette place, une sorte de petit pèlerinage. Parce que d'une part, je la trouve belle, et puis elle n'a pas vraiment bougé, en tout cas pour ce qui est des arcades. Et donc, quand je me promène là, sous les voûtes, je dis toujours, j'ai foule les mêmes dalles qu'à des mousquetaires, une marchande d'oubli. Et ça continue beaucoup à m'émouvoir, et pour les mêmes raisons, le Pont-Neuf, qui est lieu central de Paris et dans tous les sens du terme au 17e. Et donc de le revoir là, à l'évidence au même endroit, avec les mêmes pierres. Là, il y a vraiment une machine à remonter dedans. Bâtiments pour ça, ils sont très 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 efficaces, plus les plaques de rue et les hôtels carnavalés, ça mérite quand même le détour, l'hôtel de la Force, enfin bref, dans le Marais, moi c'est, oui, je m'y promène vraiment avec plaisir, et puis parce que je suis au début du 17e.
Là, je crois qu'on approche de la fin du débat de l'heure fatidique. Il y a dans quelques années, un éditeur a publié un guide de Paris mystérieux. C'était Chou, avec des collaborations très très intéressantes. Et en ouvrant ce guide, on s'aperçoit que l'histoire de Paris est traversée par des événements criminels ou des événements fantastiques, que c'est vraiment. Il y a une matière très, très riche dans cette ville, ne serait-ce que parce que beaucoup de gens y habitent, qu'il y a eu des successions nombreuses. Est-ce que vous pensez que d'autres villes de France pourraient ou ont
la capacité d'inspiration que peut avoir Paris sur les écrivains.
Bordeaux, oui. Bordeaux, si personne ne fait un jour un roman sur Bordeaux avec la beauté de ses bâtiments et la cruauté de son histoire, parce que quand même cette beauté est bâtie sur l'esclavage, et c'est vraiment c'est le sommet du triangle, on va dire que c'est le triangle d'or de l'esclavage, Bordeaux. Un jour peut-être, quelqu'un fera quelque chose. Enfin, moi j'ai pas lu, à part Mauriac, mais.
Non, mais je doute pas qu'un auteur bordelais pourrait être inspiré par Bordeaux, ou un Toulousain par Toulouse et un Lyonnais par Lyon. Mais par contre, est-ce que des étrangers, si tu dis, à d'autres villes que Paris, seront aussi majoritairement que ça, influencés ou inspirés par... Moi, je suis nancéen, bon, en même temps, je passe un truc, Paris, ça reste la capitale de la France, elle était déjà au XVIIe, donc historique, qui joue un rôle important, s'impose. Mais il n'empêche, quoi, Lyon était aussi une ville importante à l'époque, j'aurais vu, et pourtant, non, ça me branche moins, quoi. Pourtant, visuellement, il y a des choses splendides à faire à Lyon, la guerre. Hein.
Ton cardinal, tu pouvais même le mettre à La Rochelle.
Oui, j'aurais pu faire des tas de... Mais je crois que Paris a une puissance d'évocation et qui nous dépasse, nous, Français, largement. Hein.
C'est un peu comme Londres, en fait. On avait, pour un million de phrases, avec Gilles Dumais, on avait fait une très très longue interview de China Neville, et où on l'avait interrogé sur sa vision de Londres. Et dit, mais voilà, Londres, en fait, est multiple. Il y a ma vision de Londres, il y a celle de Dickens, il y a celle de...
Eman,
voilà.
Nowhere. Même là, c'est le Londres de l'autre côté.
Voilà, il dit, chacun ramène son... En fait, je pense que Paris, comme Londres, c'est des villes qui sont assez grandes pour permettre de, pour supporter la cohabitation avec des versions alternatives d'elles-mêmes. Peut-être pas, parce qu'en fin de compte, chacun a son image de Paris. Même, voilà, l'Américain qui arrive, qui a vu que des adaptations de téléfilms pourris de bouquins minables de Judith Krantz, il a son Paris, quoi, dans sa tête. Et il repartira avec celui-là.
Ah, mais Paris, c'est la France, même, tu veux parler avec souvent d'ailleurs, des Américains, ils aiment des Américaines. Vous êtes français, en général, c'est pas mal. Et vous connaissez Paris, j'ai dit non, j'habite pas à Paris, tout d'un coup, vous avez cessé d'habiter en France. On n'est pas parisien, boum, non, c'est fini.
Ça reste, enfin voilà.
De toute façon, ça reste la destination touristique
pour moi, évidemment,
majoritaire.
Nous, ça nous fait pouffer, mais moi, j'ai des amis américains et. Il lui a fait sa demande en haut de Notre-Dame avec une demi-bouteille de champagne et elle ne pouvait pas lui dire non. Et nous, évidemment, c'est ridicule, ça nous fait pouffer. Là. Mais c'était le summum du romantisme. En fait, il pouvait pas.
Tu vas le ranger ton classe ou ce, oui, effectivement.
Alors qu'à la porte de Bagnolet, je suis sûr qu'il y a des couches de soleil.
Très même une anecdote, c'est que pour les Japonais, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Le syndrome de Jérusalem,
Le syndrome de Paris, c'est un problème psychiatrique qui touche les Japonais en vacances à Paris et qui est lié à une espèce d'effet dépressif, de dépression lié au choc de découvrir le vrai Paris par rapport au Paris complètement fantasmé qui est le Paris, justement le Paris qui correspond aux déclarations d'amour, à la coupe de champagne sous la tour Eiffel, et quand il découvre le RER et les Vélib, il
fait un cadre. Le choc culturel, un japonais policé, un rien naïf qui tombe sur un garçon de café après s'être tapé un taxi.
Moi,
je suis surpris que c'est un syndrome, il n'appelle
pas syndrome de
Paris. Des cas de suicide.
Cela dit, il y a un truc rigolo à faire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Dans une librairie aux États-Unis, je m'étais amusé à regarder les guides. Américains sur Paris, hein. Et c'était édifiant. Alors déjà, on était évidemment pas sympa, on sent quoi, ils sont pas totalement tort.
Ils sont d'accord avec les Marseillais, les Toulousains, voilà. Les Bordelais, enfin. Comment tu fais?
Après, il y a des trucs assez bizarres, du genre, les Français, et spécialement les Parisiens, ne vous regardent jamais dans les yeux. ils ne vous disent jamais merci. C'était des trucs super étonnants de voir cette vision décalée, je trouve ça vraiment drôle. Voilà, c'était en fait, voilà, ils avaient voulu faire un vaccin contre le geek, enfin, contre Paris fantasmé. Et du coup, on se retrouvait avec des affirmations un peu étranges.
Oui, il y a une anecdote de ce qui s'est passé avec le succès du livre de Dan Brown, où les touristes parisiens débarquaient à Saint-Sulpice pour voir quelque chose qui n'existait pas. Et on aurait dit que ça avait inspiré un très beau poème à Raoul Ponchon. Ils auraient peut-être été surpris, mais Raoul Ponchon a écrit une poésie très courte. « Je hais les tours de Saint-Sulpice. Chaque fois que je les rencontre, je pisse contre. » Voilà, bah, je crois qu'on va arrêter le débat là-dessus. Sur un monument
par exemple. Ville
lumière et pas pipi. Alors peut-être sur un conseil de lecture, parce que ça vient d'être réédité, et c'est un livre absolument magnifique. Dans les années 50, Jean-Paul Kléber a écrit chez De Noël un livre sur son expérience de... Il s'est fait clochard. Ça s'appelle Paris insolite. C'est une lecture que je vous recommande parce que vous allez découvrir un Paris qui est beaucoup plus proche du Paris de Léo Mallet que de celui qu'on peut voir aujourd'hui.
Et juste un mot, là, tout à l'heure, tu disais que c'était rare Paris dans la SF. Mais il y a quand même Roland Wagner qui a fait les lectures mystères de Paris, ouais. Et qui était lui directement dans la ligne de Léo Mallet.
Léo Mallet, tout à fait.
Voilà.
Ça ne se passe pas tout à Paris, quand même.
Non, mais bon.
Ouais. Mais c'est vrai, c'est très inspiré.
Mais beaucoup, enfin, Roland est beaucoup plus inspiré par Mallet que moi je ne le suis. Moi je suis inspiré par mon enfance dans le 13e, etc. Mais Roland, lui, il est en plein dedans.
Et dans le 13e, il paraît qu'il y avait une douane, et qu'à cette douane, on fabriquait un plat qui s'appelle le gendarme des barrières. Alors si vous voulez en trouver la recette, il y a un livre d'Alain de Bouzon qui s'appelle Le gendarme des barrières. Essayez, vous allez voir, c'est assez particulier. Voilà, merci Eric, merci Pierre, merci Jeanne, merci Jean-Philippe. J'espère que le débat ne vous a pas ennuyé et qu'on a passé un moment dans un Paris de rêve. Merci.
Le Paris s'est arrêté. Il y a une seconde, le truc. Ça va ?